Bonjour à tous. Alors, je sais pas comment vous avez vécu ce début de culte, mais moi, ça a été vraiment un réel plaisir d'avoir ce culte un peu plus intimiste et de pouvoir louer notre Seigneur et notre Dieu. Et j'espère, ma prière, c'est qu'on va pouvoir se faire plaisir maintenant avec l'étude de sa parole et que Dieu va nous interpeller encore. Et je vous proposerai juste de prier peut-être ensemble avant qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on puisse apprendre de lui encore ce matin. Oui Seigneur, merci parce que, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, tu es venu sur terre. Merci parce que tu es reparti auprès de ton Père, mais tu as laissé le Saint-Esprit avec nous, le Consolateur. Et Seigneur, nous te prions, je te prie que vraiment tu nous remplisses de ta présence à travers ton Esprit, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous permettes de discerner ce que tu veux nous dire et que tu puisses vraiment parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous nous plaçons vraiment devant toi. Amen. Alors, connaissez-vous l'affaire des caporaux de soins ? Tim, si tu veux. Alors, Gavin n'est pas là ce matin, mais on va faire juste un tout petit peu d'histoire, quelques petites anecdotes. Au début de la Première Guerre mondiale, vers l'an 1915, le combat fait rage autour du village de Soins, dans la Marne. Après 2 mois de combat contre les Allemands, de nombreuses pertes côté français, et face à l'inutilité d'une nouvelle attaque, qui les voit une mort certaine, plusieurs soldats français refusent de poursuivre le combat et donc de sortir des tranchées. Suite à la désobéissance de ces hommes, le général Revac exige des sanctions. 24 hommes comparaissent devant le tribunal militaire, mais seuls 4 d'entre eux, dont vous avez les photos là, 4, tous caporaux, sont désignés coupables et sont condamnés à mort. Ils sont tous les 4, fusillés pour l'exemple, comme ça pouvait se faire à l'époque. Si le refus de sortir des tranchées était avéré, était clair, cette décision était celle de tous les hommes, et pas uniquement de ces 4-là. Soit tous étaient coupables, soit personne ne l'était. Et pourtant, ces 4-là ont été coupables, jugés coupables, et pas les autres. Dès la fin de la guerre, donc en 1918, comme vous le savez tous, la veuve de l'un de ces caporaux, dont on voit l'image en dessous, ci-dessous, va entamer un combat pour la réhabilitation de la mémoire de son mari et de ses 3 amis. Et ce n'est qu'en 1934, 19 ans après que ces 4 hommes aient été fusillés, pour l'exemple, que la Cour spéciale de justice accepte de juger cette affaire et donne un avis favorable à la réhabilitation de ces 4 hommes. Les épouses des fusillés ont reçu un franc symbolique en tant que dommages et intérêts. Mais l'essentiel pour cette femme, pour leurs épouses respectives, c'était que la mémoire de ces 4 hommes soit réhabilitée parmi les Français, qu'on puisse les réhabiliter. Et ce matin, un peu à l'image de ces soldats qui ont été réhabilités, je voudrais aussi réhabiliter 2 personnages bibliques qu'on a souvent tendance, je trouve, à sous-estimer, voire même à mésestimer. Ce matin, nous sommes le jour de Noël. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir dans une direction complètement autre. Nous fêtons la naissance de Jésus. Mais au lieu de mettre notre focus sur la naissance de Jésus en elle-même, sur l'enfant Jésus, ça a été le cadre de 2 prédications dernièrement, de Charlie et de Reynald, je voudrais plutôt mettre le focus ce matin sur les 2 premières personnes qui ont su que Jésus allait naître. C'est qui ces 2 premières personnes ? La première, Marie, et la seconde, Joseph. Ce matin, je voudrais parler des parents de Jésus. Je voudrais parler de Joseph et de Marie. À propos de Joseph et de Marie, un commentateur a écrit « Nous avons négligé Marie dans nos prédications. » Un commentateur évangélique. « Nous avons négligé Marie dans nos prédications et nous avons oublié Joseph plus encore. » C'est une réalité. Je crois qu'on n'a jamais entendu de prédication sur ces 2 personnages. Pas qu'ils aient une place centrale, bien sûr. Mais c'est comme si on les avait mis de côté, Joseph et Marie. Pourquoi parle-t-on si peu d'eux, en fait ? Parce que je crois que peu de personnages bibliques ont été autant mésestimés qu'eux. Beaucoup voient en Joseph un homme de l'ombre, un homme quelconque. Et en Marie, une femme qui, parce qu'elle a été beaucoup trop mise en avant par les catholiques, on ne doit même pas en parler parmi nous. Et je crois que c'est malheureux. Et je voudrais leur faire justice ce matin. faire justice à ce couple et les réhabiliter d'une certaine manière dans nos pensées. Parce que quand on lit de près sa Bible, on se rend compte que ce sont des disciples exemplaires et que leur vie de disciple, les qualités qu'ils démontrent, sont vraiment des qualités qui nous parlent ce matin encore, aujourd'hui encore, et j'espère que ça va vous parler. Pour moi, Joseph et Marie sont aussi des héros de la foi, même s'ils n'y apparaissent pas dans Hébreux 11. Des héros de la foi. D'ailleurs, Dieu ne s'y est pas trompé. Il est évident qu'on ne confie pas ses enfants à n'importe qui. Peut-être à l'un ou à l'autre, c'est arrivé de devoir trouver nounou pour ses petits. Je ne peux pas parler d'expérience personnelle, on va dire, puisqu'on a choisi une autre façon de faire avec Manu, puisqu'elle est à la maison. Mais peut-être c'est arrivé qu'on doive trouver nounou pour ses petits. Est-ce qu'on choisit sa nounou comme ça? Allez, toi, tu vas faire l'affaire. Non, bien sûr que non. On ne donne pas son enfant à n'importe qui. On fait attention que ce soit une personne de confiance, quelqu'un dont on pense qu'il peut faire l'affaire, qu'il sera protecteur, qu'il sera gardien de son enfant. Maintenant, imaginez-vous un peu, ne serait-ce qu'un instant à la place de Dieu. À la place de Dieu. À qui auriez-vous confié votre fils unique? Parce que c'est ce qu'a fait Dieu. Dieu a confié son fils unique sous la forme d'un bébé. À qui auriez-vous confié votre fils unique? Sur quels critères auriez-vous basé votre choix pour le confier? Dieu a porté son choix sur Joseph et sur Marie. Et s'il a porté son choix sur Joseph et sur Marie, c'est sans doute et sans aucun doute qu'il a discerné en eux des qualités qui pouvaient faire l'affaire pour garder, pour être les protecteurs de son enfant pendant un temps, pour être les parents qui vont élever et éduquer son enfant pour un temps. Et je voudrais m'arrêter sur ces quelques qualités pendant ce temps. Pour trouver ces qualités, on va un peu nous balader entre les évangiles de Matthieu et de Luc. On voit un peu ces différentes qualités avec la naissance de Jésus. Retenez juste que l'évangile de Matthieu est plutôt écrit du point de vue de Joseph et que l'évangile de Luc est plutôt écrit du point de vue de Marie. Donc on va commencer par Marie. Son nom n'apparaît que 23 fois dans la Bible. C'est très peu. C'est un personnage mineur, en fait, dans la Bible. Et pourtant, c'est l'un des personnages qui a fait couler le plus d'encre. Parce que malheureusement, nos amis catholiques, on en fait une quasi-déesse, une idole. Mais ce matin, je ne vais pas expliquer ce que n'est pas Marie. Parce que nous le savons tous, Marie n'est pas une déesse. Elle est une simple femme. Mais quelle femme ! Ce matin, je veux plutôt m'attacher à faire ressortir, à faire attention aux qualités de Marie. Et des qualités dont on peut retirer beaucoup aujourd'hui, je crois. Et avant de méditer sur ces qualités, il est bon de replonger juste un instant sur le contexte entourant l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. Jusqu'au jour où l'ange Gabriel est apparu à Marie, Marie était une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles de Galilée. Son parcours était déjà tout tracé. Elle était fiancée à Joseph, le charpentier du village de Nazareth. Toute sa vie était tracée, en fait. On dit ça et c'est déjà fini. Elle va avoir des enfants avec son mari Joseph. Ses enfants sont charpentiers. Voilà, elle vivra à Nazareth, ce sera fini pour elle. Rien de bien plus. À cette époque, c'était les parents qui arrangeaient les mariages pour leurs enfants. Et une fois que cela était fait, les individus, donc mari et femme, enfin fiancés, étaient considérés comme mariés, mais ne commençaient pas encore à vivre ensemble. Ils habitaient chacun chez leurs parents respectifs pendant encore un an. Cette période d'attente avait pour but de démontrer la véracité du témoignage de pureté de l'épouse. C'était le but. Témoignage de pureté de l'épouse pendant cette année-là. Et après cette année, le mari venait avec toute une grande procession chez les parents de son épouse pour récupérer son épouse et enfin démarrer la vie conjugale normale ensemble. Et c'est justement pendant cette période d'un an, alors que Marie était fiancée donc, pendant cette période d'un an où elle était censée témoigner de sa pureté, que l'ange va apparaître à Marie. Il est aussi bon de se rappeler qu'à l'époque, on mariait généralement les filles juives entre 13 et 16 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entre 13 et 16 ans ce matin, dans la salle. Imaginez-vous, vous avez entre 13 et 16 ans, ou imaginez-vous, pour les plus vieux, il y a quelques années, et l'ange vient vous voir pour vous annoncer que vous allez tomber enceinte sous le Saint-Esprit. Pendant qu'on va évoquer les qualités de Marie, essayez de réfléchir si vous auriez été capable, à cet âge-là, 15 ans à peu près, face à une situation pareille, la naissance du Fils de Dieu, de démontrer autant de qualités que Marie en démontre. Que cette pensée puisse nous habiter encore. Les qualités de Marie. D'abord, je vois en Marie une femme obéissante. Son obéissance est frappante. En Luc 1, verset 38, premier verset pour ce matin, Luc 1, verset 38, Marie dit à l'ange, qui va lui révéler qu'elle va tomber enceinte sous l'action du Saint-Esprit du Fils de Dieu, « Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » On a tendance à lire ces textes comme si de rien n'était. Facile. Un ange apparaît, oui, je veux bien. On oublie facilement qu'est-ce que ça voulait dire pour Marie d'accepter cela. Il fallait une sacrée dose de courage à Marie pour accepter ce que demandait Dieu, ce que lui demandait Dieu. Marie prenait le risque de tout perdre en acceptant cette grossesse. D'abord, elle prenait tout simplement le risque de perdre l'homme qu'elle aimait, Joseph. D'ailleurs, Joseph a pensé à se séparer d'elle. Elle serait devenue mère célibataire au premier siècle, dans un petit village à Nazareth. Une vie mal partie. Et on peut imaginer le déchirement émotionnel aussi que ça aurait pu être. On peut imaginer que Marie était amoureuse de Joseph. Marie aurait pu avoir aussi le déshonneur pour toute sa vie. N'oublions pas, c'était cette année où elle devait montrer les signes de sa pureté. Elle aurait été la risée de tout Nazareth. Elle risquait d'entendre des moqueries incessantes, des calomnies à chaque sortie. Du genre, tu parles, Joseph et Marie, ils font les religieux. Mais Jésus est né 6 mois après leur mariage. D'ailleurs, les pharisiens se sont fait un plaisir de rappeler qu'ils ne savaient pas d'où venait Jésus. En Jean 9, verset 29, ils disent, ces pharisiens, à Jésus, « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, à propos de Jésus, nous ne savons même pas d'où il vient. » Et peut-être que c'est une connotation à la naissance, vis-à-vis de la naissance de Jésus. On ne sait même pas d'où il vient. Quand on constate une grossesse, vous êtes comme moi, il n'y a qu'une seule explication possible. Jamais personne ne croirait à la virginité de Marie. Des soupçons pèseraient sur elle pendant toute sa vie. Surtout, Marie risquait aussi la mort par lapidation. À l'époque, les fiançailles étaient beaucoup plus engageantes qu'aujourd'hui pour nous. Les fiancés étaient en fait juridiquement mariés, même s'ils n'habitaient pas encore ensemble. Et l'engagement entre fiancés était tel qu'une séparation, que pour se séparer, il fallait divorcer, à proprement dit. Et l'infidélité d'un des deux fiancés pendant cette période de fiançailles était considéré comme un adultère et donc, d'après la loi, passible de la mort par lapidation, selon Deutéronome 22, versets 23 et 24. Marie risquait de perdre Joseph. Elle risquait de devenir la risée du petit village de Nazareth, la honte de la famille et peut-être même de perdre la vie. Elle a pris un risque qui semblerait insensé à n'importe qui d'entre nous. Ça me semble insensé le risque qu'elle a pris, Marie. Et pourtant, elle a accepté avec obéissance la volonté de Dieu pour elle. Elle a fait preuve d'une soumission totale à Dieu. Et c'est un exemple extraordinaire d'obéissance pour moi. Plus qu'un Moïse, par exemple, plus qu'un Gédéon, qu'on a tendance à voir comme des grands hommes de Dieu, et bien sûr c'est des grands hommes de Dieu, mais qui eux, Moïse et Gédéon, au début, quand Dieu est venu dans leur vie, les a interpellés pour les utiliser, n'ont pas fait preuve de la même obéissance que Marie, loin de là. Ils n'ont pas voulu de cet appel de Dieu. Marie, elle, n'a pas tergiversé. Elle a répondu à l'appel de Dieu d'une manière incroyable, une obéissance incroyable, alors qu'elle prenait tant de risques. Jusqu'à quel point nous sommes capables d'une telle obéissance, d'une telle prise de risque pour Dieu. Marie l'a fait, elle. Une deuxième qualité que j'ai vue, c'est une femme de foi. La première réaction de Marie face à Gabriel, c'est le trouble. Luc 1, verset 29 nous dit « Marie fut profondément troublée par ces paroles. » Et après l'exposé de sa mission par Gabriel, On voit chez Marie une réaction de perplexité, pardon, d'étonnement à travers sa question. Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Comment est-ce que je peux mettre enceinte un enfant alors que je suis vierge ? Être enceinte alors que je suis vierge ? Marie est troublée. Elle est étonnée, perplexe par rapport à ce que l'ange lui annonce. Mais il n'y a aucune marque d'incrédulité chez elle. Elle n'y a aucun doute, elle ne remet pas en doute les paroles de Gabriel. Elle demande simplement une explication. Elle ne porte pas de jugement de valeur par rapport à ça. Tu te dis bêtises, c'est pas possible. Non, c'est simplement comment, une explication. Et la simplicité de sa question est, je trouve, révélatrice d'un esprit paisible, d'un esprit confiant. Comment Dieu va agir, tout simplement. Elle ne se pose pas mille questions légitimes par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que va penser Joseph ? Non. Comment, Dieu, tu vas agir dans ma vie ? Simplement l'interrogation du comment. Toute simple. Et Marie, je crois, fait preuve ici d'une foi peu commune. Sa réaction est à l'opposé de celle de Zacharie, par exemple. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui Gabriel, le même ange, est venu annoncer aussi la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, lui, a clairement douté de l'ange. Il est écrit en Luc 1, verset 20, un petit peu avant. Alors voici, donc c'est l'ange qui parle à Zacharie, « Tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. Tu n'as pas cru. » D'un côté, on a Zacharie, un homme, un prêtre, un homme qui avait la possibilité de servir Dieu dans le lieu saint. C'est à ce moment-là que l'ange lui est apparu. Et de l'autre côté, on a une Marie, une jeune fille de 15 ans, qui ne savait peut-être même pas lire, face à la même situation. Qui c'est qui a fait le plus de preuves de foi dans cette situation ? C'est Marie. Ce n'est pas Zacharie, qui pourtant était un homme de Dieu, d'une certaine manière, un homme consacré au service de Dieu. Marie est un exemple de foi, une femme de foi. Une femme humble aussi. C'est dans la louange qu'elle prononce à Dieu lorsqu'elle rencontre Élisabeth dans son fameux Magnificat qu'on voit à quel point Marie était une femme humble. Je voudrais juste qu'on lise ensemble à partir du verset 46, Luc 1, verset 46 à 49. Marie dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. » C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Son humilité est remarquable. Elle reçoit de Dieu le plus grand honneur qui soit. Elle va être la mère du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grand honneur que ça ? Pas grand-chose. Et pourtant, elle fait preuve d'une humilité à couper le souffle. Pourquoi ? Parce qu'elle se voit comme une servante. Abaisser son regard sur son humble servante. Marie ne se voit que comme une servante. Comment est-ce que nous nous voyons, nous, par rapport à Dieu ? Notre regard sur nous-mêmes a un impact non négligeable sur notre louange à Dieu et sur notre attitude de service, sur notre attitude d'humilité devant Dieu. On peut avoir une fausse humilité. En disant par exemple qu'on est trop mauvais, je suis trop mauvais pour faire ci ou ça. Mais finalement, c'est souvent pour attirer la sympathie, pour attirer la sympathie et puis pour essayer se dévaloriser en fait, pour que les autres nous exaltent, nous disent non, t'es bien, t'es pas si mauvais que ça, t'es bien. Et ça revient à quoi en fait ? Ça revient à être de l'orgueil déguisé en fait. On cherche juste à ce que les autres nous mettent en avant. La véritable humilité, à l'exemple de Marie, consiste à regarder en deux directions. D'abord avec réserve sur nos compétences. Et c'est ce que fait Marie. Elle regarde avec réserve sur ses compétences. Paul écrit, Romains 12, verset 3, « Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. » Avoir un regard avec réserve sur ses compétences, ses capacités. Et en même temps, ensuite, avec la conscience que tout ce que nous avons est déjà donné par Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu que tu n'aies déjà reçu? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Marie a fait ce regard. Elle avait ce regard par rapport à ses propres compétences et capacités d'humilité, de service. Et en même temps, elle avait conscience que c'est Dieu qui intervenait dans sa vie d'une manière particulière. Une autre qualité de Marie, c'est une femme respectueuse de la loi. Un peu plus loin, on voit que Marie, avec Joseph, respecte scrupuleusement la loi. Elle observe trois rituels précis de la loi. En Luc 2, verset 21. D'abord, elle fait circoncire son enfant Jésus à l'âge de 8 jours, au cours de laquelle il reçoit son nom, donc Jésus. Ensuite, au verset 22, elle procède au rituel de purification, de sa purification au bout de 40 jours. Et dernière chose, au verset 23 et 24, Marie va présenter Jésus en tant que fils premier-né. On peut juste lire ces versets, versets 22 au 24, chapitre 2. Puis une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Et à travers ce sacrifice, on sait que ce sacrifice était le sacrifice des pauvres, d'après Lévitique 12. Donc on voit que Dieu n'a pas cherché un couple ou une famille riche pour son fils. Il a recherché quelque chose d'autre. Il a recherché une attitude de cœur. Il a recherché d'autres qualités. On pourra peut-être dire, par rapport à ce respect scrupuleux de la loi, que Marie n'a fait que suivre des traditions, que tout le peuple suivait. Mais personnellement, il me semble percevoir une démarche personnelle dans le respect qu'elle a pour la loi. D'une certaine manière, Marie aurait pu se dire « Jésus est le Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de faire tout ça. » Il n'y a pas besoin, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas besoin de suivre toutes ces prescriptions. Mais elle n'a pas été tentée dans ce sens. Au contraire, elle a voulu, avec Joseph, suivre scrupuleusement la loi établie par Dieu. Et on voit d'autant cela d'autant plus que plus tard, il nous est dit que Joseph et Marie faisaient le voyage pour fêter, pour célébrer la Pâque à Jérusalem tous les ans. Vous savez, au moment où Jésus est présent au temple à 12 ans. Jésus était présent au temple, enfin, était présent à Jérusalem à 11, 10, 9, 8, tous les ans, avec Marie et Joseph pour célébrer la Pâque. Et toutes ces choses, je crois, démontrent la fidélité de Marie dans son service pour Dieu. La fidélité de Marie vis-à-vis de la loi de l'Éternel. Elle est toujours restée fidèle au commandement de Dieu. Une dernière qualité que j'ai vue chez Marie, c'est que c'est une femme bénie. Gabriel lui dit, en Luc 1, verset 28, « Le Seigneur est avec toi. » La vie de Marie devait le démontrer, sans aucun doute. Le Seigneur est avec toi. Sa vie devait le démontrer. Plus tard, Élisabeth lui dit aussi « Tu es bénie plus que toutes les femmes. » Pourquoi ? Parce que Marie s'était mise en situation d'être bénie. Marie n'est pas plus bénie qu'une autre femme intrinsèquement, naturellement. Elle est bénie parce qu'elle s'est mise en situation d'être bénie. C'est le résultat de son attitude exemplaire, cette bénédiction, de sa confiance, des qualités qu'elle démontre pour Dieu. La bénédiction est toujours le résultat des qualités qu'on montre pour Dieu, de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Et il est intéressant aussi de noter que même si elle savait qu'elle était bénie, qu'un ange lui est apparu, ce qui n'est pas donné à tout le monde, moi perso j'en ai jamais vu, qu'elle était le sujet d'un accomplissement, d'une prophétie. Je ne sais pas si l'un d'entre nous est le sujet d'accomplissement de prophétie ce matin. Oui, non. Même malgré tout ça, Marie ne s'est pas mise en avant. Elle ne l'a pas criée sur les toits. Et cette attitude dans la bénédiction devrait aussi nous faire réfléchir sur notre propre attitude dans la bénédiction. Est-ce que nous le crions sur les toits? Ou est-ce que nous savons être humbles dans cette bénédiction? Marie l'a été. Dieu a choisi Marie comme mère pour son fils. Il l'a choisi parce qu'il a vu en elle une attitude exemplaire, dans son obéissance. Marie a d'abord pensé aux intérêts de Dieu, avant les siens. Elle a pris des risques pour Dieu. Et Dieu l'a récompensée d'une manière exceptionnelle. Elle est devenue la mère du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Quel poids de risque est-ce que je suis prêt à prendre pour mon Dieu aujourd'hui? Dans sa foi, Marie a non seulement cru Gabriel, Mais encore, elle a accepté le projet de Dieu pour sa vie. Un projet qui bouleversait tous ses projets à elle. Elle a eu foi dans le projet de Dieu pour sa vie. Dans son humilité, elle a eu un regard juste sur elle-même. Je suis la servante. Est-ce que nous sommes des serviteurs, des servantes vis-à-vis de Dieu, ou est-ce qu'on croit être autre chose que cela? Dans son respect pour la loi de Dieu, Marie a toujours fait preuve de fidélité, de respect vis-à-vis de la loi. Puissions-nous faire pareil par rapport à ce que nous avons dans notre parole, dans la parole de Dieu, avoir ce même respect pour ce que nous dit la parole. Dans la bénédiction qui reposait sur elle, enfin, Marie a été bénie parce qu'elle s'est mise en situation d'être bénie. On a souvent une prière de bénédiction lors d'un culte de mariage, ou dans certaines églises, à la fin du culte, on a une prière de bénédiction. Cette prière de bénédiction n'a aucun intérêt, n'a aucune utilité si les personnes pour qui on prie ne se mettent pas dans cette situation de bénédiction. Si je prie pour un frère ou une sœur qui va complètement à l'opposé de ce que Dieu demande, ma prière de bénédiction n'a pas de valeur, n'a pas d'utilité. C'est la bénédiction, elle est à rechercher personnellement et à rechercher en se mettant en situation vis-à-vis de Dieu, en situation droite vis-à-vis de Dieu, du mieux qu'on peut en tout cas. Et Marie l'a fait. Passons à Joseph maintenant. Je trouve qu'on minimise trop souvent son rôle auprès de Jésus en tant que père. David Robert a écrit « Le rôle de Joseph est si négligé par rapport à celui si éclatant de Marie » que nous le reléguons à une position inférieure dans l'histoire de l'enfance de Jésus, au même niveau que l'aubergiste, les bergers ou les mages. Mais il dut être un personnage exceptionnel, sinon Dieu ne l'aurait pas choisi pour élever son fils. Joseph était le fiancé de Marie, donc, au moment où Gabriel est venu annoncer la grossesse à Marie. La Bible ne donne pas beaucoup de détails à son propos. Et il semble, sans doute, que Joseph est décédé peu avant le début du ministère de Jésus à 30 ans. Cela fait que beaucoup ont vu en Joseph un homme quelconque, un homme de l'ombre, comme une pièce rapportée à la famille de Jésus. Je crois que c'est un mauvais jugement. Joseph était autant le père de Jésus que Marie sa mère, même s'il n'était qu'un père adoptif. Joseph a joué un vrai rôle en tant que père. C'est Joseph en tant que chef de famille qui a été appelé à nommer l'enfant Jésus. Et à ce propos, un commentateur a écrit « Appelé à nommer l'enfant, Joseph sut qu'il en était indiscutablement, le père, non un père adoptif, mais un père adopté, adopté par son enfant dès sa conception dans le sein de son épouse. De ce jour, il eut la conscience certaine que le fruit improbable que portait Marie était béni et que son mariage n'était pas détruit, mais transformé par cette bénédiction. » Après la mort de Joseph, on sait que Jésus a repris pour un temps l'entreprise familiale de charpente, puisque les gens de Nazareth parlaient de Jésus comme du charpentier. Marc 6, verset 3. Cela signifie que Joseph a appris son métier de charpentier à Jésus, comme un père le faisait avec son fils à cette époque-là. Si on a encore un doute sur le vrai rôle paternel de Joseph vis-à-vis de Jésus, dans Luc 3, verset 23, il est parlé de Jésus comme du fils de Joseph. Joseph n'était pas une pièce rapportée. Il a eu un vrai rôle paternel, je crois, auprès de Jésus. Quelles sont les qualités que Dieu a trouvées chez Joseph pour lui confier ce rôle de père terrestre pour son fils? Comme pour Marie, la première qualité qu'on voit, c'est que c'est un homme obéissant. L'obéissance de Joseph est aussi incroyable. Alors d'accord, on pourra toujours dire que c'est plus facile d'obéir quand un ange nous apparaît pour nous dire ce qu'il faut faire. Mais quand même. Malgré le fait d'avoir eu cette révélation directe d'un ange, qui lui dit entre autres le sexe de l'enfant, son nom et même la mission de l'enfant, c'est mieux que les échographies actuelles. Malgré tout cela, Joseph, si on se rappelle le contexte, c'est compliqué pour lui. Sa fiancée est enceinte. Comment vous auriez réagi en apprenant une chose pareille? Et vous savez bien que ce n'est pas de vous qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que vous auriez fait en sachant une chose pareille? Joseph, lui, obéit à Dieu d'une manière remarquable. En Matthieu 1, verset 24, après que l'ange Gabriel lui est apparu, que l'ange Gabriel. Je ne sais plus si c'est l'ange Gabriel ou pas, c'est un ange en tout cas. Matthieu 1, verset 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Il n'a pas hésité une seule seconde. Dès son réveil, Joseph a agi. Dieu dit, à travers l'ange, Joseph agit, immédiatement. Il n'y a pas tant de questionnement, tant d'attente, c'est immédiat. Malgré l'incompréhension, bien compréhensible pour Joseph, Joseph obéit et choisit d'épouser Marie, ce qui est d'une importance capitale, parce qu'à travers ce mariage, Jésus devient l'enfant légitime de Joseph. Il devient donc un descendant de David par la lignée royale, ce que les prophètes avaient annoncé. Et c'était primordial ce mariage, par rapport à ce que les prophètes avaient annoncé. Cette obéissance fidèle et l'empressement de Joseph à obéir à Dieu n'est pas un événement esselé. On le voit par la suite agir de la même manière. Après le départ des mages, il doit partir en Égypte, tout abandonner, afin de protéger la vie de son fils. Il doit tout quitter et le fait sans moindre hésitation. En Matthieu 2, versets 13 à 14, il est dit « Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Qu'est-ce que fait Joseph ? Joseph se leva et partit dans la nuit. Joseph ne se pose pas de questions. Dieu dit, Joseph agit. Toujours la même chose. Par la suite, ce sera pareil. Quand il faudra revenir d'Égypte pour se réinstaller, avec cette pensée d'abord en Judée, puis finalement d'aller à Nazareth, Joseph va obéir à Dieu rapidement, tout de suite, immédiatement. Pas de questionnement. Une obéissance totale. En Matthieu 1, verset 19, il est écrit que Joseph était un homme de bien. Semeur a traduit un homme bon et droit. Joseph a manifesté ses qualités dans la manière dont il a abordé la grossesse de Marie. Il manifeste sa droiture, en décidant de rompre ses fiançailles, car elle ne pouvait pas tolérer une telle situation. Et il manifeste surtout sa bonté vis-à-vis de Marie, dans la manière dont il cherche à se séparer d'elle. Parce qu'il faut savoir que Joseph avait deux possibilités pour se séparer de Marie à ce moment-là. La première, c'est d'appliquer la loi de l'Ancien Testament, en entreprenant contre Marie une action légale, ce qui aurait eu pour conséquence une disgrâce publique de Marie, et sans doute un jugement pour adultère. Le second moyen pour Joseph, c'est d'appliquer une coutume autorisée par l'Ancien Testament, en donnant simplement une lettre de divorce à Marie en présence de deux témoins, et d'épargner ainsi à Marie la honte d'une séparation publique, ainsi que le risque de se faire lapider. La bonté que Joseph a pour Marie, la considération qu'il lui porte, à ce moment-là, lui montre que Joseph est un homme de grande qualité. On peut facilement s'imaginer à quel point il a eu le cœur brisé en apprenant la nouvelle. À quel point il pouvait en vouloir à Marie. Et pourtant, il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas voulu faire le moindre tort à Marie, même s'il croyait qu'elle lui avait été infidèle. Son amour pour elle lui dicte une séparation en douceur. Joseph a été capable de rechercher le bien de Marie alors qu'il se croyait trahi par elle. Et c'est là, je crois, qu'on voit que Joseph est un homme de bien. Un homme capable de rendre le bien malgré tout le mal ressenti. Un homme capable de rendre le bien malgré tout le mal ressenti. Une autre qualité de Joseph, c'est que c'est un homme réfléchi. Dans la manière dont il aborde tous les événements autour de la naissance de Jésus, on se rend compte que Joseph est un homme réfléchi, avisé, ne faisant rien par précipitation. Suite à la nouvelle de la grossesse de Marie, il réfléchit à la situation avant de prendre sa décision. Il ne se précipite pas, aveuglé par les sentiments. Il est dit en Matthieu 1 qu'il est dans la réflexion quand l'ange lui apparaît, dans son songe. Et après cette visite, Joseph met de côté ses sentiments, son incompréhension, pour agir d'une manière sage par rapport à ce que Dieu dit. Et par la suite aussi, Joseph fait preuve toujours de la même sagesse, du même discernement après la naissance de Jésus. Par exemple, lorsqu'il revient d'Égypte, en décidant de retourner en Galilée et de ne pas rester en Judée à cause du risque pour son enfant. En Matthieu 2, verset 21, « Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélus, était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un songe, dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Joseph fait attention à ce qui se passe. Il y réfléchit dans la conduite de sa famille. C'est aussi un homme plein de respect, un homme plein de respect pour le plan de Dieu. En Matthieu 1, verset 25, il est dit « Joseph prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Joseph est remarquable dans le respect qu'il porte à Dieu. Il est plein de respect par rapport à l'ordre de Dieu. Il décide de ne pas avoir de relation conjugale avec son épouse et maintient les fiançailles avec Marie jusqu'au bout, jusqu'à la naissance, par respect vis-à-vis des ordres de Dieu. Et une dernière qualité, et pas des moindres, que je vois en Joseph, c'est qu'il a pris à cœur son rôle de chef de famille pour Marie et Jésus. C'est Joseph le chef de la famille, ce n'est pas Marie. À Marie, Dieu s'est adressé une fois pour lui annoncer la naissance, la grossesse qu'elle va avoir. Mais à Joseph, c'est au moins 4 reprises qu'un ange lui apparut dans un songe pour lui dicter ce qu'il devait faire. Dieu s'est adressé au chef de famille. C'est aussi à Joseph que Dieu parle et interpelle en disant « Prends l'enfant et sa mère ». Dieu parle au chef de la famille « Prends l'enfant et sa mère ». C'est quoi un chef de famille ? C'est entre autres un homme qui s'est endossé le rôle de protecteur et de guide pour sa famille, comme l'a fait Joseph. Joseph a été protecteur pour sa famille, en prenant immédiatement Marie avec lui, au lieu d'attendre la fin de la période de fiançailles, que la période de fiançailles d'un an soit terminée. Joseph en ferait une coutume. C'est ce qu'il dit, hein, Matthieu 1, verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Les 1 an n'étaient pas passés à ce moment-là. Il en ferait une coutume. Et plus encore, Joseph prend l'opprobre sur lui-même aussi. Marie était enceinte. Joseph la prend pour femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour chacun d'entre nous, naturellement. Joseph a couché avec Marie, tout simplement. Et on va dire, pareil de Joseph, Joseph, qu'est-ce qu'on va penser de lui ? Il est prêt à supporter cela pour protéger Marie, pour protéger sa famille. Il est aussi le guide de sa famille. C'est lui qui est le moteur des différents déplacements de sa famille. D'abord en Égypte, enfin d'abord à Bethléem. Ils restent un temps à Bethléem, ils vont en Égypte, ils reviennent à Nazareth. C'est lui qui déplace sa famille, c'est lui le guide de sa famille. Dieu a choisi Joseph comme père pour son fils, père terrestre. Il a choisi parce qu'il a vu en lui une attitude exemplaire, dans son obéissance encore une fois. Est-ce que nous faisons preuve du même empressement que Joseph pour obéir à Dieu ? Ou est-ce qu'on remet au lendemain ? Dans sa bonté, après avoir été blessé par quelqu'un, m'est-il déjà arrivé de répondre par le bien ? Joseph l'a fait. Dans sa réflexion, Joseph n'a pas agi avec précipitation, enivré par ses sentiments personnels. Il a été réfléchi dans son attitude, dans son respect vis-à-vis de Dieu. De quelle manière est-ce que je respecte ce que Dieu me dit aujourd'hui ? Est-ce que je suis un homme ou une femme de compromis ? Ou quelqu'un qui a un véritable respect pour ce que me dit Dieu dans sa parole ? Enfin, dans son rôle de chef de famille, Joseph nous laisse l'exemple d'un homme qui a été le vrai protecteur, le vrai guide pour sa famille. C'est à chacun de nous, en tant qu'homme, de suivre cet exemple. En conclusion, je voudrais simplement qu'on apprécie vraiment à sa juste valeur le choix de Dieu vis-à-vis de Joseph et Marie, dans leur rôle de parents pour son fils unique. D'abord pour les réhabiliter en tant qu'exemple pour nous. Et je pense que toutes les qualités qu'on a pu voir nous montre vraiment des disciples exemplaires. Et c'est un exemple pour moi, personnellement. Et leur exemple, je crois, doit de toutes les manières nous parler. Est-ce que Dieu choisirait ma famille pour faire venir son fils unique ? Est-ce que Dieu me choisirait pour être le père ou la mère de son enfant ? Et on peut se dire que, oui, il y a un exemple chez Joseph et Marie de consécration. Et ensuite, apprécier le choix de Dieu, car ce choix, je trouve, une démonstration incroyable de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour élever son fils unique, Dieu n'a pas choisi une famille qui a un quelconque pouvoir politique. Il n'a pas choisi une famille riche. Il n'a même pas choisi une famille sacerdotale, une famille lévite. Non, religieuse. Non, il a choisi un simple couple, comme vous et moi, habitant un petit village de Nazareth, Joseph et Marie. Et je crois que ça nous montre vraiment la grâce de Dieu. Et ça nous rappelle la grâce de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes. En 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28, il est écrit « Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous ? Vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. » Et ce choix de Dieu pour Joseph et Marie est vraiment l'image de cela. Il a choisi une folie, un couple fiancé. La fiancée est enceinte. C'est une folie. Et je crois que la folie de Dieu, d'une certaine manière, entre guillemets, se voit aujourd'hui à travers nous. La grâce de Dieu se voit aujourd'hui à travers nous. Amen.